Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a un type en savate qui lit à voix haute des poètes morts dans sa chambre noire. Il n'a pas fait l'amour depuis la dernière crise pétrolière. Il ne s'est pas lavé depuis le mois dernier, mais il s'en fout. Il n'est pas fou, il est flou. C'est le nouvel homme invisible, un anti-héros déconnecté, insensible au monde, qui ne sauve personne. La faute à la maladie de l'indifférence, un virus très contagieux qui ne se soigne pas, docteur. Dans tes rêves, il y a un autre type qui se marre tout seul avec ses crayons de couleur. Il dessine un gros méchant assis sur le trône de ses toilettes. La langue pendue, le pantalon baissé, le regard vide à tweeter dans la nuit au milieu du PQ, aux couleurs du drapeau américain. C'est un grand malade de l'indifférence qui existe pour de vrai à la Maison Blanche. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, poète, critique littéraire, musical, essayiste, joueur de mots, avocat des anti-héros inspirés de la vraie vie. C'est bien sûr aussi l'un des papous dans la tête de France Culture, on les aime bien ceux-là. Une douceur de chloroforme, c'est son dernier roman et c'est chez le Castor Astral. Bonjour, bonsoir, Patrice Delbourg.
Bonsoir.
Je me suis librement inspirée de votre personnage anti-héros. C'est quelque part une nouvelle version de l'homme invisible, non ?
Oui, c'est vrai que c'est un homme invisible, c'est un homme sans consistance, c'est un homme sans cavité, c'est un homme de profil comme ça qui avance un peu à l'égyptienne dans l'existence.
Et vous les aimez bien ceux-là ?
Oui, je les aime bien, comme ça ils marchent sur une marelle un peu improbable. J'aime bien, j'ai horreur des héros.
Oui,
surtout les héros positifs, ça me déprime.
Je sens que ça va inspirer mon second invité, auteur de BD, scénariste, caricaturiste politique, fan des cow-boys justiciers comme Bouncer.
Héros positif, mon Bouncer.
Bah oui, c'est vrai.
Oh, mince.
Mince. Bon bah, bonjour, bonsoir. Ouais, François Bouc. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de mon déroulé. Bouncer, le 11e tome, sort chez Glana, là, le 7 mars prochain. Et en attendant, vous venez de croquer Trump en 100 tweets aux éditions I avec la scénariste Vanessa Duhamel. Bah là, on parlait de héros ou d'anti-héros. Franchement, vous êtes amusé à le croquer encore plus gros, moche et méchant sur ses toilettes en couverture.
C'est un personnage qui est fait pour être dessiné. Il y a des personnages comme ça qui sont faits pour être dessinés. Et c'est marrant parce que dans la description du personnage que vous racontez là. On pourrait très bien le rapporter sur Trump. Trump, c'est un type qui a lui aussi décidé d'être tout seul à la tête d'un pays avec des millions d'individus. Mais il veut surtout pas s'occuper de ces millions d'individus, il veut s'occuper que de lui.
Oui, c'est ça.
Les opinions qu'on se fait de lui.
Un autre solitaire, pas solidaire. Hein,
Oui, mais Trump, c'est un séducteur aussi.
Ça dépend.
C'est un homme qui veut se réaliser, qui veut gagner de l'argent.
Ouais.
Il est très différent de notre pauvre aimé.
Il va y en avoir des héros qui existent ou pas dans la vraie vie. C'est votre première rencontre. Et pourtant, le dessinateur a beaucoup travaillé avec des écrivains et inversement, le poète avec des dessinateur. On a besoin comme ça de confronter des imaginaires pour sortir de sa zone de confort, comme on dit dans le management. Un mot qui doit plaire aussi aux poètes, je pense.
Un mot totalement inconnu.
J'imagine.
Comment vous dites management?
Ouais.
C'est étrange ce mot.
Une zone de confort.
Et zone de confort.
Zone de confort. C'est celle-là dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, notre zone de confort qui fait que on y est confortablement installé dans notre atelier ou devant une table et où on peut, avec distance, regarder ce qui se passe à l'extérieur sans être forcément impacté. Ça, c'est aussi un autre
mot. Oh là là, impacté.
Ça se dit pas,
on n'aurait
pas
le dire.
Ça se dit trop, en fait.
Ça se dit trop, oui.
Et oui, sans être impacté, et ça permet d'avoir juste la distance qu'il faut pour pouvoir bien dessiner les gens. Sans qu'ils vous tombent dessus à bras raccourcis pour vous faire la peau.
De toute façon, en commun l'un et l'autre, vous avez cet humour noir ou jaune, absurde, du non-sens. Pour prendre un autre mot, c'est votre bouclier de citoyen derrière l'artiste aussi, ça, de mettre en distance.
De citoyen, je ne sais pas, de piéton en tous les cas, de passant, de contemporain. Mais c'est vrai que la retraite, notre petit humus, notre petit terreau où on peut se retrancher pour dessiner, pour écrire, c'est formidable. C'est comme le Nautilus, hein. Le capitaine Nemo, comme ça, qui derrière le hublot, et puis qui regarde passer tous ces petits poissons phosphorescents, ces vieux calmars, ces vieux oursins, comme ça, un peu. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un aquarium formidable sous les yeux.
Un aquarium, moi je voyais pas ça comme ça, avec des gros poissons rouges.
Oh oui, oh, pas tellement roux, un peu gluant, oui.
Si, ça peut être ça. C'est peut-être pas forcément que des poissons, mais en tout cas ils baignent tous dans le même
marigot.
Jus. Mais c'est toutes des formes qui bougent les unes avec les autres. Un peu comme sans doute doivent sentir les poissons, parce que quand ils s'approchent d'un autre poisson, ils le sentent, ils se reculent. Et donc, on voit des gens dans les rues comme ça qui bougent, et si on les voit avec ce regard-là, on s'aperçoit qu'il y en a, ils sont prêts à se toucher, mais non, ils s'en vont. Et pourquoi ? Il y a eu un truc qui s'est passé d'un autre ordre. Moi, ça me plaît toujours d'essayer de reconstituer l'histoire qui a pu se passer entre ces deux sans même qu'ils s'en rendent compte.
Ouais, ben, je savais que vous aviez l'imaginaire, mais alors voir la rue comme un aquarium, ou imaginer l'instant d'avant.
Mais vous savez, tout à l'heure, quand vous parliez des rêves, j'ai une prise de conscience qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Je me disais, mais au fond, je suis très déçu par tous mes rêves. À chaque fois que je me mets.
Déçu?
Oui, très déçu par mes rêves. Quand chaque fois que je me mets dans le lit et que je commence à rêver, le lendemain matin, je fais un peu l'état des lieux de mes rêves et je m'aperçois que c'est les trucs, c'est assez nul.
Genre les factures à payer, le frigo.
Ça peut être oui, des trucs très quotidiens. Puis en plus de ça, je trouve que dans les rêves, j'arrive pas à rêver en couleur.
Je ne vois pas de
couleur dans mes rêves.
Pour ça, un dessinateur.
Mais c'est extraordinaire. Moi aussi, je ne rêve qu'en noir et blanc.
Ah.
Mais ça, c'est très étonnant. Et je rêve 19e siècle, comme des gravures de Hetzel.
Et je suis sûr que, en fait, ceux qui disent qu'ils voient des couleurs dans les rêves, c'est des menteurs.
Oui.
Parce que c'est pas vrai, on voit pas de couleurs dans les rêves.
Et mais c'est manichéen, alors, du coup, c'est une vision noir-blanc, non?
Mais d'ailleurs,
grisâtre.
Ah, oui.
Mais je pense que les gens qui disent qu'ils rêvent sont des menteurs tout court. Parce que, en venant ici, j'emmenais pas large, parce que j'avoue que je ne rêve pas beaucoup, je ne me souviens pas beaucoup de mes rêves. Ou je préfère parfois ne pas m'en souvenir.
Non, mais donc, on parle surtout des rêves éveillés, hein, pas forcément
oui,
des rêves
mais
nocturnes.
Oui, mais c'est vrai que le rêve noir et blanc, qui est souvent un peu morbide, un peu glauque, un peu, l'aquarium, moi, ça me va très bien pour, comme monde contemporain.
C'est un peu flou, hein, l'aquarium,
non,
maintenant.
Non, regardez tous ces poissons, comme ça, qui sont sur le trottoir, sur le bitume, le ventre à l'air, avec eux, qui manquent d'air, c'est nos contemporains.
Ouais, oh.
Ah oui.
Excusez-moi,
c'est cette
alors.
Vision un petit peu.
Mais c'est là que sont les plus belles couleurs d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable, c'est que en fait la réalité est bien plus belle que mes rêves. Mes rêves, je les trouve pas intéressants, quoi. Et je me dis même, est-ce que je vais continuer à faire ça? Parce que si c'est pour à chaque fois rêver des trucs pas intéressants, autant que
je savais qu'il allait y avoir des connexions entre vous. Hein. Vous connaissez il y a à peine quelques minutes. Entre le dessinateur et le poète, la poésie, le dessin, là on est vraiment dans l'imaginaire de l'enfance, on reparlera de vos parcours tout à l'heure, c'est l'imaginaire de la fronde aussi, de rester frondeur, rester gamin comme dans la cour de récré quelque part, pour mettre à distance justement l'esprit de sérieux, de raison, non?
Moi je rêve moche.
Encore?
Oui, donc heureusement qu'il y a les mots qui prennent le relais.
Je rêve moche.
Mmh. Ah oui, je rêve moche, je rêve patraque. Je rêve flappy, c'est des choses qui sont pas, c'est pas encourageant pour moi. C'est pas créatif, un rêve.
Ouais.
Les mots, oui.
Oui.
L'alphabet des mots. Et puisque le caquettement de mes semblables, auxquels je prête une oreille, bon, souvent un petit peu cruelle.
Oui, un peu
ça,
quand
ça,
même.
Hein. Ça me fait
frondeur.
Bien.
Donc, je parlais de fronde, là, tout à l'heure.
Oui, mais frondeur, ça veut dire que c'est un engagement social, la fronde aussi. ce qui n'est pas du tout le cas de mon personnage.
Je suis dégagée de tout. C'est un frondeur, vous, le dessinateur François Bouc?
Gentiment frondeur. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai tendance à m'imaginer... En fait, frondeur, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ma propre opinion sur la vie. Et d'échapper à toutes les opinions qu'on a essayé de m'inculquer sur comment je devrais voir les choses, etc. Et le dessin, c'est ça aussi, sa pertinence, c'est que vous dites, ah ben, d'accord, on m'a dit que ça c'était une vache, je vais la dessiner pour voir si c'est vraiment si c'est comme vraiment ça vrai. Une vache. Et là, on découvre la vache telle qu'on peut la percevoir, on la réinterprète, et je me fie pas à l'interprétation des autres. Et donc, je préfère avoir le contact direct avec la chose plutôt que... Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que je suis frondeur avec l'état d'esprit des autres, ceux qui ont pendant des années voulu m'éduquer à l'école.
Mais
heureusement,
en parlera
j'ai échappé.
Je crois savoir, des vaches frondeuses, des histoires d'aquarium, des poètes pas dans les clous. Voilà pour la partition lyrique jusqu'à minuit. Vous postez vos songes également sur notre page Facebook. Dans tes rêves, la rêve partie du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses. Comme vous l'avez remarqué, il y a que des filles derrière la vitre. Céline Mila à la réalisation, Nadia Chouguier à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir à la technique, c'est Élise Christophe. Belle soirée.
J'aime ta peau dorée, toi qui me donnais tout, de ta main délivrée. J'aime la peau dorée, mais maintenant je pleure. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui aime et qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps. Nous ne nous reverrons plus sur terre, ni le poème, le passé vient plus vite qu'on pense. Laisse-moi le bruyère, un souvenir pour récompense. Quel est cet endroit où dans l'ombre confuse les démons et les anges se mélangent? Là, je te rejoins dans cette brume épaisse que le tabac, le bon joint obscurcissent. Alors je pleure ton nom. Oui, je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Et moi, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui espère connaître la fin de l'hiver. Nous ne nous reverrons plus sur terre, ni le poème, le passé vient plus vite qu'on pense. La 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 la. À genoux, j'implore au ciel et mer. Et ce brin de bruyère, seul souvenir pour récompense. Pas comme Apollinaire, un souvenir pour récompense.
C'est Feu Chatterton sur France Inter et ce soir, nous visitons les rêves éveillés et créatifs de nos deux invités, le dessinateur François Bouc et le poète écrivain Patrice Delbourg.
Dans tes rêves.
Je n'ai aucune envie de grandir.
Allons chérie, n'y pense pas ce soir, on verra ça demain.
Laurence Garcia sur France Inter.
On verra ça plus tard. Bah justement, messieurs, à chaque fois, nous revisitons l'imaginaire de l'enfance, qui explique aussi qui l'on devient. Je vais commencer par vous, Patrice Delbourg. Vous le disiez, enfant du Marais, du lycée Charlemagne, un vrai Parisien. D'ailleurs, c'est le décor de pas mal de vos livres.
Presque tous.
Presque tous. Époque où les gamins jouaient vraiment dehors, jouaient aux cow-boys du bazar de l'hôtel de ville. On était des enfants du dehors à ce moment-là.
C'est ça, les enfants du dehors, les enfants du macadam, les enfants de la Marelle, des Malabars, des Mistral gagnants. Bon, c'était le Paris. Moi, je vis dans le troisième, bon, qui était jadis un arrondissement assez populaire, quand même. Bon, maintenant, c'est devenu autre chose.
Ah bah, ultra bobo,
un autre
même,
aquarium boboïde.
Ah oui.
Effectivement, il y a des petits goupilles comme ça qui viennent s'accrocher dans les cafés. Donc, mais bon, ceci dit, je suis fidèle à mon.
Et vous vivez toujours à deux pas de votre propre lycée, c'est ce que vous me confiez.
Oui, tout à côté, entre l'école communale et puis le papetier où j'achetais mes petits carnets à spirale jadis. J'ai bougé de 100 mètres entre la rue de Braque où je suis né et la rue où je vis maintenant, donc entre le bazar de l'Hôtel de Ville, le marché des Enfants Rouges et la Bastille.
Et ce qui est très drôle, c'est que François Bouc, vous êtes un vrai Lillois, un vrai Parisien, et pareil, vous vivez aussi dans le quartier de l'enfance, quoi. Pas anodin non plus.
Je suis un aventurier bien plus tempétueux que notre collègue. Moi, j'ai fait 2 kilomètres entre...
c'est énorme.
Non, j'ai pris des risques. Entre ma maison actuelle et la maison natale.
Ça s'explique, ça, docteur?
Et j'étais au collège Charlemagne, moi aussi.
Bon,
voilà encore une partie qu'on a en commun. Mais à Lille. On a été sous la même tutelle.
Charlemagne. On dit souvent qu'on se construit comme ou contre son propre milieu. Alors j'ai cherché un peu Patrice Delbourg, j'ai pas vu vous venez de quel milieu, quelle valeur familiale, grandi dans les livres, pas dans les livres.
Oh, je viens d'une famille un peu réac, famille bon, un peu poujade. Mes parents étaient commerçants, fleuristes. Tous mes grands-pères, arrière-grands-pères, grand-mères, cousines, tout le monde vendait des fleurs chez moi. C'est moi qui ai cassé le... Je fais des fleurs de rhétorique,
oui,
mais
ça.
Je ne fais pas le yay et la rose à la botte. Donc toute ma famille était au El Baltar, puis ensuite à Rungis.
Oui.
Voilà, j'ai vécu entre les épines et les caresses.
Oh, pas mal. Môme déjà en colère contre les Lagardes et Michard, les manuels qui vous imposent les lectures à lire, les auteurs, parce que alors, pour vous, il y a les auteurs chiants, les poètes rasoirs, les écrivains donneurs de leçons, les mobiles et les immobiles.
Oui, il y a les sédentaires et les nomades. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les piétons, j'aime bien les gens qui...
Oui, ça vient souvent le mouvement hein, pour vous.
Voilà, j'aime bien les mouvements, j'aime bien les marcheurs. Voilà, de Fargue jusqu'à Jacques Reda ou Yves Martin aujourd'hui. J'aime bien les gens avec un œil caméra qui donne à voir, qui donne à sentir. J'ai horreur de la poésie suppositoire qui sent l'académie, le camphre, comme ça, avec 3 mots par page. Ça me déprime complètement. Il faut de la vie, il faut de la générosité dans la poésie.
Sinon, ça agite pas assez les pensées?
Voilà, sinon comme je ne rêve pas beaucoup, en plus vous vous rendez compte, si j'ai une écriture totalement desséchée, alors je deviens quoi, une amibe.
Et peut-être que dans votre panthéon imaginaire ou pas, des jongleurs de mots, il y avait cette voix-là.
Voilà Colin Maillard avec les yeux bandés, saluez, saluez.
Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personnellement, je préfère moi-même. Et j'ai horreur qu'on me tutoie. Cependant, avec un peu d'entraînement, nous pouvons parvenir à aimer notre prochain presque autant que moi-même. La meilleure façon d'aimer notre prochain comme moi-même consiste à l'intégrer le plus naturellement du monde à nos jeux les plus humbles. Ainsi vais-je maintenant jouer à Colin Maillard avec ce sympathique aveugle.
Chic !
Car l'aveugle est le seul prochain qui soit toujours prêt à jouer à Colin Maillard sans le moindre accessoire. Regardez bien.
Qui ? Moi ?
Non, pas vous.
Prêt ? Prêt.
C'est l'aveugle ?
Oui.
Tenant, non ?
La minute si nécessaire de Monsieur Cyclopède, voilà, ah, oui. Des proches forcément.
Ah, bah, des proches, c'est un maillon indispensable. Hein. Il y en a pas beaucoup. Il y a Alphonse Allais, il y a Jules Renard, il y a Pierre Dac, et il y a des proches.
Ouais. D'ailleurs, je suis pas certaine que ce sketch-là passerait aujourd'hui. Se moquer des aveugles, ouais, ouais. Politiquement incorrect avant l'heure, hein, de toute façon, des proches.
Immédiatement, les ligues de vertu, il y aurait 3 procès aux fesses, etc. Mais attendez, Coluche et des proches aujourd'hui, mais là c'est une banalité. Beaucoup de gens le pensent, ne pourraient plus passer sur les tréteaux. Ils seraient immédiatement, ils sortiraient avec des menottes.
Ouais. François Bouc, vous êtes un des progiens, vous, entre autres.
Ouais, j'aime beaucoup, oui, bien sûr. J'aime aussi Raymond Devos dans ce genre de registre-là. J'adore aussi. Bien sûr, d'autres dans ma catégorie, dans la bande dessinée, des mecs comme Reiser et tout ça, qui eux aussi, ou Cavana, qui eux aussi auraient du mal à vivre aujourd'hui.
Ouais,
il y a un mec qui m'a donné un terme que je ne connaissais pas, qui est un terme rabelaisien, peut-être vous le connaissez, qui ce sont les agélastes.
Non.
Vous savez ce que c'est un agélaste?
Demandez au poète plutôt, hein, moi.
Un agélaste, c'est quelqu'un et qui ne sait pas rire et qui veut empêcher les autres de rire.
Oui.
Ah,
oui.
Et ce terme n'a jamais été repris par le dictionnaire. C'est-à-dire, c'est un terme qu'on trouve chez Rabelais, mais qui n'est pas intégré dans le dictionnaire. Ça dit beaucoup de notre époque.
Mm.
C'est-à-dire que notre époque, elle se défie énormément de la rigolade. Alors qu'en fait, on devrait passer son temps à ça,
ouais.
À se poiler les uns les autres.
Poilons-nous les uns les autres. Alors, on parlait de l'enfance de Patrice Helbourg, la vôtre, donc, gamin de Lille. Alors, vous, c'est un papa qui tenait une entreprise de plomberie, c'est ça?
Voilà, mon papa avait une formation de plombier, zingueur, couvreur, chauffagiste. Et donc, il avait créé une petite entreprise. Et moi, mon enfance, je l'ai passée avec les ouvriers et j'adorais ça. Je revenais de l'école et j'allais dans l'atelier pour voir les ouvriers. Et chez ces ouvriers, il y avait une quantité d'humoristes,
ah bon,
mais qui étaient dignes de ce qu'on vient d'entendre, des proches ou de Coluche. Et je passais mes fins d'après-midi avec ma mère qui venait me chercher en disant « Tu arrête de t'amuser avec les ouvriers !» Et je me souviens d'un couple qui était un couple de couvreurs zingueurs, et donc ils pliaient le zing, et pendant qu'ils pliaient le zing, ils refaisaient toute la journée, en se marrant l'un et l'autre. Ils s'appelaient Bilk et Marceau, on pourrait presque le dire.
Oui, c'est presque un
numéro de duettiste. Ah. Et donc moi j'avais mon numéro de duettiste, en allant tous les soirs voir, et quand ils n'étaient pas là, je me disais, putain, merde, qui est-ce qu'il y a ce soir?
C'est mieux que la télé, hein, à l'époque. Mais à la limite, c'est pas complètement anodin. François Bouc, vous travaillez vos mains en tant que dessinateur. Il y a côté artisanat aussi.
J'ai fait de la plomberie aussi,
ouais.
Parce que pour gagner un petit peu d'argent, j'allais avec les plombiers. Et alors, moi je m'appelle Bouc. Dans l'entreprise de mon père, il y en avait un qui s'appelait Jean Lecoq, il y en avait un autre qui s'appelait Henri Leboeuf, et on était donc toute une basse-cour ensemble, et on faisait de la plomberie, on tordait les tuyaux, et moi j'ai appris la géométrie dans l'espace grâce au plombier, parce que je travaillais avec un plombier à un moment donné, et Roger il s'appelait. À ta mémoire Roger. Et Roger, il s'était mis dans la tête de jamais mettre un coude, donc vous savez, les emboîtements de coude,
oui,
ou d'été, qui n'avaient pas sa raison d'être. Donc ils cintraient les tuyaux. Cintrer les tuyaux, c'était les tordre des tuyaux en cuivre. Et j'ai appris comment on pouvait faire d'une ligne un déplacement dans l'espace.
Une autre forme de poésie.
C'est épatant d'être bricoleur. Moi, je ne suis bon à rien.
Oh, mais arrêtez
de... Mais non, je suis une catastrophe domestique. Je suis incapable de planter un clou. J'ai pas la main verte. Je sais pas faire la cuisine.
Bon, bah, vous savez écrire.
Non, mais dans une maison, c'était assez terrifiant.
Oui.
Faut pas avoir de maison.
Mais je n'en ai pas, d'ailleurs. J'en ai une familiale que j'ai bien de la peine à garder à bout de bras. Et quand j'y arrive, il y a tellement de choses à faire que je commence à m'asseoir, à pleurer, je vais à l'hôtel.
Les inadaptés, comme vous les aimez, voilà, aussi.
Oui, c'est vrai que c'est plus qu'une adaptation. C'est bon. Il y a un refus. Mais il faut dire que quand j'étais petit, bon, je voulais faire quelque chose et mon père me disait, mais non, tu vas te blesser. Retourne donc dans tes
donc
livres.
Donc la faute à papa, quoi. Le refus de la réalité, finalement.
Refus de la réalité. Oui. Alors, bon.
Voilà ce que vous pouvez faire aussi. Vous mettez toujours un petit bandage à votre doigt. Et quand il y a un problème en bricolage, j'ai, tu peux pas faire ça toi à ma place parce que regarde, moi je peux pas le faire, j'ai un bandage à mon doigt. Il y a toujours quelqu'un qui va le faire.
Oui, il y a toujours. Oh, il y a des corps constitués qui le font. Mais
des corps constitués.
Oui, mais bon, il vous voit venir, hein. Oh, c'est le Parisien, il vous la scène.
Avec son chapeau, chapeau jaune.
Avec des factures un petit peu voraces.
Alors voilà pour les éveilleurs d'imaginaire de nos invités. On parlera tout à l'heure de vos utopies de grands adultes. Je ne sais pas si c'est un mot qui inspirera et le poète et le dessinateur ce soir jusqu'à minuit. C'est Patrice Delbourg et François Bouc. Belle soirée.
It on ya, raise the bar and they move it on ya. Take you off the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terrible if we organize, they can get it. Siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies in their bottom for us on. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on.
C'est Rakilo, Mamani Keita et Mike Ladd sur France Inter, dans tes rêves.
France Inter. Dans tes rêves.
I have a dream today. I have a dream. One day.
Laurence Garcia.
I have a dream.
Des rêves et des utopies ce soir avec nos deux invités, le poète écrivain Patrice Delbourg et le dessinateur scénariste François Bouc. Alors voilà, tiens, utopie, en voilà un mot qui, est-ce que ça défrise la barbe du poète? Est-ce que ça inspire le dessinateur? À qui l'honneur?
Pas très inspirant pour
oui,
moi,
ça,
utopie.
C'est bizarre.
Une utopie, ça correspond souvent à une idée fixe et qui veut englober la totalité du monde.
Ouais.
Et l'utopie est souvent totalitaire. Toutes les utopies qu'on peut voir décliner comme ça à travers des... C'est toujours une vision, j'aimerais bien que le monde soit comme ça les gars. Hein. Et alors, si on le met en application, on arrive dans un état totalitaire, parce que c'est la vision d'une personne.
Vous croyez pas aux nouvelles, là, micro-utopies, voilà, façon de se réinventer, se reconstruire aujourd'hui, je parle pas des anciennes.
Une utopie pour soi tout seul?
Non, pour tout le monde, monsieur.
Bah, voilà, c'est aussitôt qu'on englobe tout le monde dedans.
Le bonheur est une utopie,
oui,
peut-être.
Pourquoi pas, ouais. Dit-il.
Non, les utopies, c'est plutôt, à mes yeux, quelque chose de médical, un peu, pour moi.
Médical?
L'hypochondrie, quelque chose.
Ah bah vous, vous êtes un vrai hypochondriaque,
oui,
vous.
La fibromyalgie, c'est une utopie.
Oula.
La migraine, tout ça, toutes les douleurs de la charpente du corps, c'est des formes d'utopie.
Ah oui, bah je voyais pas ça comme ça.
Utopie, pour moi, c'est quelque chose de tellement fluide, tellement presque philosophe. Enfin, ça m'éloigne vraiment de mes bases. Ça me fait peur aussi.
Mais en même temps, vous, par exemple, Patrice Delbourg, vous le dites hein, dans vos romans, vous mettez souvent en scène des personnages un peu cabossés, des clochards oui. célestes. Oui. J'aime bien une expression, vous dites l'Académie pas de chance.
L'Académie pas de chance.
Pour le coup, des gens qui ne sont pas dans les utopies ou dans les rêves de meilleurs, hein, en quoi ils vous inspirent plus cela? Ou quelque part, est-ce que c'est la revanche? Est-ce que vous êtes un petit peu l'avocat de la revanche des seconds rôles alors?
Oui, c'est vrai que j'aime bien les seconds rôles dans les westerns, dans les films réalistes des années 30. On a une pléiade, on a quand même une colonie de seconds rôles formidables en France. Hein. Bon, souvenez-vous de Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gire, Le Vigan, Carette. On a formidable. J'aime bien aussi les écrivains qui sont du mauvais côté du balcon, les écrivains un peu de la rupture, de la lisière. J'ai horreur des écrivains qui vendent beaucoup de livres.
Ben oui. Parce que vous êtes jaloux.
D'abord parce que je suis jaloux. Et en plus, souvent, j'ouvre leurs livres et je vois que le style, correspond à un grand public qui n'est pas nécessairement celui que je touche.
Pas dans ceux de la dite réussite sociale. J'ai lu quelque part, François Bouc, que vous disiez la vraie crise d'aujourd'hui, c'est la crise du rêve d'être riche.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'on a donné, je pense, à tous les individus qui peuplent nos sociétés, l'idée qu'ils pourraient tous devenir riches. Tout savoir, tout ce qu'on voit à la télévision et tout ça. Et donc, il court après ces trucs-là.
Mais qui veut peu, quoi.
Et mmh. Alors que, au fond, on peut très bien vivre sans avoir tous ces désirs. En fait, c'est pas vraiment des rêves, c'est des désirs qu'on leur a fabriqués. Le rêve, encore une fois, je trouve que le plus beau rêve, c'est la réalité. La réalité, elle est incroyable. Moi, j'ai la chance de vivre dans le Nord. Les couleurs qu'il y a dans le Nord sont incroyables, alors que tout le monde dans le Nord dit « Ouais, mais il pleut tout le temps, tout ça, c'est pas vrai ». Grâce à la pluie, les couleurs se révèlent. Le vert est plus brillant, le gris est d'une coloration mais inouïe. Il y a combien de couleurs de gris ?
Et là, c'est jamais du gris, d'ailleurs. Ouais.
C'est jamais du gris, c'est des couleurs à l'intérieur d'un truc qu'on a pensé gris. Parce que le problème du monde, c'est pas comment on le voit, c'est comment on le pense. Ah. Et la plupart du temps, les frustrations viennent pas du monde lui-même, mais comment on a pensé le monde. Et donc, changer sa manière de penser le monde, c'est échapper à la manière dont on voudrait vous le faire penser.
Ouais,
c'est ça le problème qu'on a, nous. Ouais. Donc, si on peut parler d'utopie, c'est faire en sorte que grâce à nos travaux, on puisse donner des opportunités de voir le monde différemment. Par exemple, moi je dessine les gens que j'ai vus dans le quartier de mon enfance. Dans le quartier de mon enfance, c'était un quartier mais fabuleux. Mais quand je dis fabuleux, c'est qu'il y avait des fées, il y avait des sorcières, il y avait des ogresses, mais il y avait des types charmants, il y avait des bègues, il y avait des gens qui étaient sans jambes, il y avait des petits vieux qui étaient à l'hospice général d'à côté, qui s'égayaient dans tout le quartier, oui. Et qui revenaient le soir complètement, parce qu'ils avaient fait tous les bistrots, donc ils avaient dépensé leur pension. Ils étaient à travers la porte de chez moi, il fallait que je les enjambe pour entrer chez moi.
La cour des miracles, hein, quand
mais
même.
Mais c'était un truc incroyable. Et ce monde-là, moins quand sûr. Je le décris, ouais. Parce que j'ai décrit d'abord ce monde-là quand je dessinais le monde que j'avais vu, eh ben, les gens me disaient, mais c'est pas possible, un monde comme ça n'existe pas. Même mes parents, ils me disaient, mais tu décris des trucs. Ils le voyaient même pas.
Ouais,
ils le voyaient même plus. Parce que les adultes ne le voient plus, ce monde-là. Et un beau jour, il y a mon copain Moebius qui vient dans le Nord et qui me reprochait toujours les gueules de mes personnages, etc. Et il vient dans le Nord pour un festival de bande dessinée, il se retrouve parmi cette population-là. Je le retrouve encastré dans une encoignure de porte. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air d'être apeuré et tout ça. Comme un... Il dit, tu vois pas, tous les gens qui sont ici, c'est tes personnages.
Ils existent pour de vrai.
Ils existent pour de vrai. Et donc, j'avais dessiné les yeux. D'un seul coup, ils voyaient les personnages que moi, j'avais toujours vus.
Ouais.
Et c'est ça
la
qui...
perception.
Notre boulot, c'est ça. C'est de montrer les choses qu'on ne voit pas.
Mais à l'inverse, par exemple, Patrice Delbourg, vous, dans votre dernier roman, Une douceur de chloroforme, là, votre personnage, ce clochard céleste, qui lui décide de refuser le monde. Pour le coup, il s'enferme chez lui. Voilà, il se sent tellement agressé partout. Qui décide de ne plus rien ressentir. Là, on n'est même pas dans la notion
oui,
de...
Il y en a qui ont la tentation de Venise, lui il a la tentation du placard à balai.
Placard à balai.
Oui, il veut moins, le moins bouger possible, presque pas respirer, pour pas se mettre en risque, pour pas prendre de bon. En même temps, c'est un être un petit peu veule. Bon, c'est un marginal, c'est un gars qui est en pointillé. C'est le gars qui est toujours un peu flou sur les photos de classe, au fond. C'est ça, les personnages.
Les invisibles, bon, les fameux invisibles.
Les invisibles, voilà, les invisibles qu'on trouve le long des périphériques. Mais moi, je pense franchement qu'actuellement, la crise que l'on vit, c'est une crise de gisement d'imaginaire, de crise de rêve. Hein. Regardez en musique, par exemple, on donne quand même 3 victoires à Aurel San. Regardez en art plastique, on va accueillir les tulipes merdiques de Jeff Koons. C'est ça aussi qu'on est en train
crise
de
d'imaginaire.
Vivre. Une crise d'imaginaire. Mmh. Une disette d'imaginaire. Une famine d'imaginaire.
Carême, en carême.
Ramadan, sans liaison avec l'actualité.
Mais en même temps, votre personnage là, pour revenir à votre personnage, Patrice Delbourg, il est assez politiquement incorrect, quelque part, parce qu'il est dans la résistance.
Oui.
Parce qu'il refuse à la fois d'être rentable, d'être bancable, pour reprendre les mots, voilà, de travailler. Et en même temps, il refuse aussi toute compassion, toute solidarité, tout humanisme, toute utopie. Il est réfractaire à tout, en fait.
Oui, il n'est pas dans le caritatif.
Non.
Et puis, il renonce aussi à tomber amoureux. Il a une sexualité de bulot.
Oui,
oui. Il fonctionne vraiment, vraiment en...
Et il refuse le beau, le bon, le désir.
Voilà, il refuse le beau.
Derrière la fiction, qu'est-ce qu'il veut nous dire, là, le poète, sur nos bons sentiments ou mauvais sentiments, sur nos grandes solitudes, nos petites solitudes, sur ce mal de siècle ou pas ?
Il faut se préparer au grand sommeil. Faut commencer à faire des brouillons. Les livres, c'est ça, c'est déjà commencer à se border dans un lit, dans un...
Il faut se préparer au grand sommeil.
Ah, de toute façon, depuis la naissance, c'est ça, il faut s'habituer. On fait des répétitions, on fait des entraînements, on fait des petits canters.
Vous dessinez comment, vous, le grand sommeil, François Bouc ?
Le grand sommeil ?
Ouais.
Ben, je le pense. Je pense, bien sûr, tous les jours. Il n'y a pas une journée où je pense pas à cet aspect-là de la vie. Mais je pense que, en tant que dessinateur, ma vocation, c'est de célébrer la vie tous les jours, à travers le dessin.
Dans tes rêves.
As-tu peur de voir les étoiles ? Je peux te montrer comment les atteindre.
Et toujours en compagnie de nos deux invités ce soir, l'écrivain-poète Patrice Delbourg et le dessinateur François Bouc. Messieurs, il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez hop, vous mettez dans votre noir intérieur. Rapprochez-vous quand même de votre micro qui est devant votre bouche. Si vous tentez de me répondre les yeux fermés, je commence par vous, Patrice Delbourg. Si comme ça, voilà, dans vos rêves que vous trouvez moches d'ailleurs, si vous pouviez recroiser ce gamin du Marais, du lycée Charlemagne, qui voilà, lisait les poètes danser dans sa tête avec les mots, avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à ce môme ?
Oh, je lui dis, ne change rien, tu sais, je suis pas loin, je suis un grand enfant démesuré, j'ai pas, comme Peter Pan, j'ai pas voulu grandir, je continue à essayer de courir, mais là avec mes lombaires ça devient de plus en plus difficile, mais j'aime bien courir sur le trottoir, j'aime bien encore jouer à l'épervier dans les jardins, j'aime bien chaparder encore des pommes par-ci par-là.
Enfin, ah oui, pas bien.
Oui, 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 oh c'est bien les petits larcins. Et puis toujours, derrière le sentiment il y a les mots, et je crois que les mots sont plus importants que les idées et même les sentiments. Alors, faire des calembours, essayer de trouver des mots, pour éviter de donner ses propres affects, pour éviter de livrer son cœur. Ça, c'est un legs familial. Chez moi, il n'y avait pas beaucoup de tendresse, mais il y avait du calembour à table.
Et des fleurs.
Et des fleurs, ce qui est un peu la même chose.
Les yeux fermés, François Bouc, pareil, vous pouvez recroiser ce gamin de Lille qui d'ailleurs un jour prend le train pour Paris en se disant voilà, je me lance à la conquête de l'Ouest parisien pour dessiner. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme ?
D'abord, il m'a jamais quitté. En fait, il est toujours là présent. J'ai même l'impression que c'est toujours lui qui parle à travers moi. Je sais pas trop ce que c'est que moi d'ailleurs. Mais en tout cas, si Si j'ai quelque chose à lui dire, c'est de, en supposant que j'arrive à me détacher de moi-même, c'est qu'il a fait un bon choix en dessinant, que c'était le meilleur moyen d'explorer la Terre et d'explorer les relations qu'il peut y avoir avec les autres, de redécouvrir surtout la forme la plus plaisante de vivre, qui est de vivre avec de l'humour, et de développer cette fantaisie particulière qui est de rire le plus possible de tous les travers qu'on peut voir, qui sont des travers que par l'a priori. En fait, le rire permet d'échapper à toutes les conventions. C'est même pour ça qu'il est dangereux.
Oui. Poilons-nous ensemble, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Toujours les yeux fermés. Patrice Delbourg, si vous pouviez réveiller un célèbre défunt, un poète, un personnage historique, un fantôme, pour un bon gueuleton, pour un bon gueuleton imaginaire, ce serait qui ?
Ah, un beau gueuleton.
Ah, un gueuleton.
Un gueuleton, oui.
Ça vous va comme mot ?
Ah oui, j'aime bien. Un Raoult, un Médianoche, fastueux, avec beaucoup de spiritueux. Eh bien, je convoquerai sans hésitation Alphonse Allais.
Ah, pas mal.
Ah oui, qui pour moi est vraiment d'abord le maître du calembour, le pionnier de tous les humours, vert, rouge, bleu à pois blanc, qui était un type absolument formidable, qui avait une répartie, une vitesse dans le mot, etc., qui était très malheureux en amour, très malheureux familialement, qui a loupé sa vie sociale et qui a passé sa vie à une terrasse de café. Il disait d'ailleurs que pour lui, l'univers, c'était une terrasse de café propagée à l'infini. Il était au Tortoni, comme ça, sur les grands boulevards, devant son absinthe, qu'il sirotait comme ça, avec son petit sucre et sa cuillère à jourer. Et c'était pour lui une forme de bonheur.
Waouh ! François Bouc, vous réveillez qui ?
Ah, j'aurais bien aimé rencontrer Rembrandt, par exemple. Alors vous allez dire, je reste dans mon registre, hein, mais Rembrandt, c'était quelqu'un de formidable, je pense. Quelqu'un qui a eu pratiquement tous les aspects que peut rencontrer un être humain, c'est-à-dire qu'il a eu une réussite sociale très grande, il a été célébré, et puis d'un seul coup, il est tombé en disgrâce par la jalousie des autres, sans doute. Et qui, à la fin de sa vie, a fait la vocation de la pauvreté, et il a fait des tableaux éblouissants à la fin de sa vie. Et de pouvoir le rencontrer et de savoir jusqu'où il a amené son itinéraire intérieur, ça m'intéresserait.
Et ben voilà pour vos gueuletons et vos rencontres imaginaires. Vous pouvez réouvrir les yeux que vous avez déjà ouverts, messieurs.
Oui. C'était pour voir si on était toujours
exactement
dans le studio.
Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce voyage, ce beau voyage intérieur. Et vous êtes raconté à travers l'autre. Je savais qu'il allait y avoir des atomes crochus connectables entre vous pour continuer de rêver. Patrice Delbourg, Une douceur de chloroforme, c'est chez le Castor Astral. C'est un très beau roman, et puis bourré d'humour aussi, hein, sur ce personnage qui nous énerve, mais qu'on aime bien quand même. Hein. Voilà. C'est ça qui est bien.
C'est notre frère, c'est notre cousin.
Ah, voilà, il nous ressemble aussi. L'album Trump en 108, c'est aux éditions I avec la scénariste Vanessa Duhamel. À noter une expo qui vous est consacrée, la plume et le pinceau, où l'on pourra découvrir pas mal de vos planches originales du 2 au 31 mars à Huberti et Brain Galleriste à Paris. François Bouc et Bounceur, le 11e tome, Les Chines du Dragon, qui sortira le 7 mars prochain chez Glénat. Voilà, j'ai tout dit.
Ouais, tout dit, ouais, allez, c'est bien. On n'a plus rien à dire alors, nous.
Allez, beau rêve en noir et blanc,
on
messieurs.
On va essayer de faire un effort, rêver davantage.
Mettez un peu de couleur dans vos rêves.
Oui. À bientôt. Mais dans la réalité, beaucoup dans la réalité.
C'est l'essentiel.
Oui.
Merci beaucoup. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec l'écrivaine Faïza Guen et le sociologue des rêves Bernard Lahir. D'ici là, bien sûr, osez rêver. L'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.